Accent d'Europe, Catherine Roland.
I'm the first young mum to hold the post of Lord Mayor, and I do hope that I can champion young working mothers in Belfast because it is extremely difficult to balance that.
Bonjour à tous. Comme chaque année, en ce début du mois de juin, le conseil municipal de Belfast réunit ses 60 élus pour désigner le nouveau Lord Mayor, le maire de la ville. Il ou elle est élu parmi les membres des partis les plus importants, à tour de rôle. Et en cette troisième année de mandat, c'est le parti de l'Alliance, qui n'est enregistré ni comme républicain ni comme unioniste, qui a choisi la jeune conseillère Nuala McAllister. Elle porte désormais la chaîne officielle de Lord Mayor et son élection est une première à plus d'un titre, Julien Lagache.
Le contraste est net entre les photos officielles. Le maire sortant, Brian Kingston, la cinquantaine grisonnante, est issu du DUP, le principal parti unioniste du pays. Il est élu depuis des années, tandis que Nuala McAllister est entrée en politique il y a seulement 3 ans, avec son tout premier mandat de conseillère municipale. La jeune femme, au sourire franc et au reflet roux, devient à 28 ans la plus jeune Lord Mayor de l'histoire de Belfast. C'est aussi la première fois qu'une jeune maman occupe le poste. Son fils Finn n'a que 9 mois et sa mère entend d'ailleurs l'associer le plus possible aux cérémonies officielles qu'elle présidera. Elle veut ainsi démonter les préjugés et renforcer l'égalité homme-femme tout en étant un modèle pour son enfant. Nuala McAllister se décrit comme progressiste, libérale et féministe, une tendance en vogue en Europe. Et bien qu'elle ait grandi dans une fratrie de 8 au sein d'une famille catholique et dans un quartier réputé nationaliste, elle ne se retrouvait pas dans les idées du Sinn Féin, le parti historique des Républicains, ni dans celles du SDLP, les nationalistes modérée. Et son histoire est quasiment un copier-coller de celle de Sam Nelson, son compagnon. Elle l'a rencontré au parti de l'Alliance, ancienne formation unioniste mais désormais neutre. Tous deux ont été élevés dans une culture catholique, mais ils sont athées, ils vivent ensemble mais n'ont pas souhaité se marier. Le mariage, les alliances, c'est beau mais ce n'est pas pour nous, résume-t-elle simplement. Notre engagement mutuel passe par notre fils. Il y a dans son expression comme une volonté de se défaire des étiquettes et de représenter une nouvelle génération, d'où le thème Belfast Global qu'elle veut porter pendant son mandat. Il s'agit de promouvoir la capitale nord-irlandaise dans un contexte de Brexit et sans doute d'incarner une société plus ouverte alors que le pays va fêter en 2018 les 20 ans des accords de paix qui ont mis fin à plusieurs décennies de troubles entre catholiques et protestants.
La fameuse tomate San Marzano, nous vous en reparlons aujourd'hui. Hier, Frédéric Lebel évoquait les moyens de la protéger par le label européen AOP, appellation d'origine protégée. Aujourd'hui, nous allons voyager dans les circuits douteux des contrefaçons. Oblongue, goûteuse, cultivée pour être mise en boîte au pied du Mont Vésuve, la San Marzano fait en effet face à une concurrence illégale, celle de la fausse tomate. La mondialisation, la recherche du profit, une législation mal adaptée, surtout le développement de l'agromafia, le cocktail est difficile à combattre pour les petits producteurs de la vraie tomate.
J'ai une belle rue ici.
Dans les locaux de la société familiale d'Anicop, Paolo Ruggiero passe en revue les boîtes de conserve de sa marque Gusta Rosso. Une vraie San Marzano, protégée théoriquement par un numéro de série et le label AOP, appellation d'origine protégée, DOP en italien. Mais il ne s'agit là que de la théorie. Dans les faits, c'est autre chose.
Je suis très en colère parce qu'on prend le risque de détruire la tradition de la San Marzano. Par exemple, le gouvernement italien autorise dans les ports italiens l'exportation de boîtes de conserve qui ont pour seule inscription la mention « tomate pelée ». Et quand ça arrive aux États-Unis, elle devient comme par miracle de la tomate étiquetée « Pomodoro San Marzano ». Dans ce cas-là, la loi ne nous aide pas, elle devient nuisible.
60% de ce qu'on appelle la tomate industrielle italienne s'exporte principalement vers les États-Unis et sa version la plus luxueuse, la San Marzano, suscite beaucoup d'appétit. Aux États-Unis, on se permet de mettre de fausses étiquettes. En Italie, certains producteurs jouent avec le flou du fameux « Made in Italy ».
Sur une étiquette de boîte de tomate, s'il y a écrit « Made in Italy », ça ne veut rien dire. La tomate peut venir de n'importe où. Quand c'est marqué 100% italien, là, ça veut dire que la tomate, le jus, tout est italien. Mais si c'est seulement « Made in Italy », ça peut venir de n'importe où dans le monde.
Okay. C'est depuis le port de Salerne et de Naples qu'arrivent et repartent les containers chargés de tomates industrielles. Car l'Italie importe aussi de la tomate de Chine et d'ailleurs. 90 000 tonnes de concentrés étrangers importés en 2015. Sur un des embarcadères du port de Naples, on retrouve Rodolfo Squoto, responsable du contrôle des douanes.
Vous voyez ici, nous sommes dans la zone de contrôle douanier du port de Naples. Et là, devant vous, eh bien, vous avez la zone où on entrepose tous les conteneurs qui vont faire l'objet d'une vérification physique.
Ces contrôles, nous explique-t-il, sont d'abord sanitaires. Il n'a pas vocation à suivre la traçabilité des vrais et des fausses San Marzano, de ces fameuses boîtes sur lesquelles on collera une fausse étiquette à l'arrivée.
Alors, la confection.
Sur la boîte, il y a seulement écrit tomate ou tomato si c'est exporté vers un pays anglo-saxon. C'est un terme générique sur lequel je n'ai pas de pouvoir. La tomate, c'est de la tomate, un point, c'est tout. Le consommateur est protégé. Mais je ne peux pas accuser le producteur de ne pas avoir mis une étiquette qui dit ce n'est pas de la San Marzano.
La legge non prevede l'indicazione non è San Marzano.
Balance commerciale oblige, Rodolfo Squoto concède aussi que les contrôles sont souvent d'ailleurs plus stricts à l'import qu'à l'export. Pour éviter les trafics, c'est en amont qu'il faudrait prendre le problème.
On devrait augmenter les contrôles sur les sites de production pour vérifier que la quantité de tomates qu'ils mettent en boîte est la même que celle qu'ils exportent. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des différences et des mélanges avec des tomates d'importation qui viennent de pays où la main-d'œuvre est moins chère. Tout ça pour exporter ce mélange d'origine douteuse qui n'est pas de la San Marzano.
L'exportation d'un produit qui en réalité San Marzano non est.
Tout se complique quand on sait que la mafia utilise de plus en plus l'agriculture pour blanchir l'argent sale. C'est l'agromafia et que pour finir, tous les producteurs de tomates n'ont pas la même exigence de qualité que Danny Kopp et Paolo Ruggiero.
C'est une bataille sans fin. Il y a des faussaires de partout. Moi, j'ai des problèmes avec la Californie où on fait soi-disant de la San Marzano qui n'en est pas du tout. Mais le problème, il vient aussi de chez nous. Il y a des industriels ici qui veulent absolument déclasser notre tomate, passer d'un label DOP, dénomination d'origine, à IGP, indication géographique. Le risque, c'est qu'ils fassent comme avec le vinaigre balsamique, qu'ils tuent les petits producteurs avec ce subterfuge.
Un gouffre sépare en effet le label Appellation d'origine protégée, l'AOP, DOP en italien, qui garantit que le produit est cultivé et emballé localement, et l'IGP, l'indication géographique protégée, pour lequel une seule étape doit être faite localement. Lorsqu'il a ouvert sa pizzeria dans le centre de Naples, Mimmo Esposito a voulu se démarquer de la concurrence en choisissant les meilleurs produits. C'est la seule richesse de sa région, la Campanie.
Chez nous, dans le sud, on est des régions assez pauvres. On n'a pas beaucoup de moyens financiers pour produire des choses de qualité. Ce qui nous reste de qualité, c'est ce qu'on a en Campanie, comme la tomate San Marzano. Et il faut la défendre. Au nord, ils ont des produits plus chers. Leur marché le leur permet, mais c'est pas comme ça chez nous.
Une production locale qui doit lutter fort pour ne pas être noyée dans les 5 millions de tonnes de tomates industrielles produites chaque année en Italie.
Il y a quelques jours, le créateur de l'enseigne Zara a fait une immense donation aux hôpitaux publics espagnols, notamment des équipements de pointe. Mais plus rien n'échappe à la polémique dans le royaume. Et l'opinion s'interroge, altruisme, charité ou bien opportunisme. Le geste du milliardaire espagnol Amancio Ortega est dénoncé par Podemos et des associations de défense de la santé publique. Alors, on joint tout de suite à Madrid notre correspondant François Musso. Bonjour François.
Bonjour.
La polémique est plutôt inhabituelle, non? Un géant du textile qui fait des dons considérables à des hôpitaux et qui se fait réprimander.
Oui, c'est pas habituel. Précisons tout d'abord donc que ce sont des donations très importantes puisqu'il s'agit de 320 millions d'euros, soit 8%, pas moins, du budget de la santé publique en Espagne l'an dernier. Précisons aussi que ces apports d'argent sont versés à des hôpitaux spécifiques, en Galice dans le nord, en Andalousie dans le sud, sous la forme d'équipements de soins pour la lutte contre le cancer, des équipements pour mieux diagnostiquer ces maladies et obtenir de meilleurs traitements. Et ce, dit la Fondation d'Amancio Ortega, est une excellente nouvelle quand on sait que chaque année, environ 200 000 cancers sont détectés en Espagne. Précisons enfin qu'Amancio Ortega n'est pas n'importe qui, il est l'un des deux hommes les plus riches du monde avec le Mexicain Slim, celui qui a monté un empire du textile, un empire dont Zara n'est qu'une des multiples marques.
Alors pourquoi y a-t-il autant de détracteurs ?
Eh bien, ils sont deux, à vrai dire. D'abord, la FADSP, qui est la Fédération des Associations pour la Défense de la Santé Publique. Et puis, vous l'avez dit, il y a aussi le parti de gauche radical Podemos. Que disent-ils? Eh bien, que ces donations millionnaires ne sont pas cohérentes. Ce qu'ils disent, c'est que ces 320 millions d'euros devraient être versés directement sur le budget de la santé espagnole et non pas à certains hôpitaux dans certains services. Et en face, bien sûr, on s'indigne. Un porte-parole de la Fondation Amancio Ortega dit qu'il faut être fou, je cite, pour protester contre des aides qui vont sauver des vies ou améliorer des vies et à des milliers de personnes. Et le Parti Populaire, le parti de la droite au pouvoir, va dans le même sens, qui a dénoncé la démagogie de la Fédération et de Podemos.
En somme, François, c'est une dispute entre le service public et l'initiative privée.
Exactement. Ce qui irrite au plus haut point les détracteurs, c'est que ce genre d'attitude, disent-ils, contribue à accepter que la santé publique est pauvre. Il faut rappeler qu'elle a été l'objet de grosses coupes budgétaires depuis 6 ans et que la seule manière d'y remédier, eh bien, ce n'est pas d'augmenter ce budget, mais d'attendre la générosité des plus riches. La philanthropie n'est pas un bon mécanisme pour financer la santé publique, a souligné Pablo Iglesias, le leader de Podemos, qui fustige un fonctionnement, dit-il, à l'américaine. D'autant, dit-il, qu'Amancio Ortega aurait trouvé ce moyen pour payer moins d'impôts. Une accusation, bien entendu, dénoncée par la fondation du milliardaire de la marque Zara.
François Musso, notre correspondant en Espagne.
We will defeat it. We're the last Lannisters. The last ones you count.
Depuis 5 ans, l'Islande est une destination à la mode pour les réalisateurs de Hollywood et des séries superstars. La beauté et la pureté des paysages, leur accessibilité immédiate, conjuguée à un crédit d'impôt de 25%, explique ce succès, si bien que certains touristes ne viennent sur l'île que pour découvrir ou redécouvrir des lieux qu'ils ont vus dans Prometheus, Game of Thrones ou encore dans James Bond. Et c'est le reportage de Jérémy Richard.
De la lagune glaciaire de Jökulsárlón et ses icebergs mouvants au gré des courants, des hautes terres vallonnées et encore vierges du centre de l'île, aux nombreuses cascades dont regorge le pays, l'Islande est un décor naturel idéal. Leifur Dagvinsson est le président de la société de production islandaise True North qui contrôle 90% du marché.
La diversité est si grande qu'on peut créer presque toutes sortes de paysages. On peut filmer l'Islande pour l'Islande ou pour représenter d'autres lieux comme l'Himalaya, la toundra mongole, la Sibérie, le Groenland et même une autre planète dans des films de science-fiction. Et puis l'Islande offre de vastes étendues où il n'y a que la nature à perte de vue.
Just the nature itself.
Des séries du petit écran comme Game of Thrones, Sense8 ou Black Mirror, aux blockbusters américains Star Wars, James Bond, Fast and Furious 8, la liste des tournages est longue. D'ailleurs, l'an dernier, jamais l'île de glace et de feu n'avait autant produit pour la télévision et le cinéma. Le chiffre d'affaires des sociétés locales a atteint 20 milliards de couronnes, soit environ 173 millions d'euros. Kristin Thordarson, président de l'association des producteurs islandais.
À partir de 2012, c'est devenu très intéressant financièrement de venir tourner en Islande. C'est proche de la plupart des pays européens, les infrastructures sont bonnes, l'accès aux lieux de tournage variés est facile. Comme à la fin, c'est toujours l'argent qui compte. Si on peut respecter un budget réduit, alors les réalisateurs viennent.
Des budgets qui varient de 1 à 20 millions de dollars. Les tournages sur l'île sont strictement réglementés, particulièrement dans la centaine de zones protégées que compte le pays. Des réserves naturelles aux parcs nationaux, un permis délivré par l'Agence islandaise pour l'environnement est nécessaire. Protection de la flore, mais aussi de la faune et particulièrement des oiseaux. Athalbjörg Guttormsdottir s'occupe de gérer les demandes.
Quand une société de production fait une demande de permis, on leur dit immédiatement « Non, à cette période de l'année, ce n'est pas possible. Mais si vous décalez de 3 semaines, le tournage à cet endroit sera possible car les oiseaux seront partis. »
Depuis 2013, les permis de tournage sont en forte augmentation et le crédit d'impôt qui vient de passer de 20 à 25% du budget de la production au 1er janvier dernier pourrait encore amplifier l'attrait de l'île volcanique pour les productions étrangères. Le président de l'association des producteurs islandais, Kristinn Þórðarson, ambitionne de le porter à 30% d'ici 4 ans, juste derrière l'Irlande et ses 32%.
Ce que nous voulons, et ce pourquoi nous militons, c'est aussi la création d'un studio. S'il y a un tel équipement ici, les réalisateurs pourront l'utiliser pour leurs projets et bénéficier en plus d'un potentiel crédit d'impôt de 30%, et ils ne seront pas allés en Islande uniquement pour filmer les paysages.
D'ici là, le pays mise sur le tourisme thématique, comme les Game of Thrones Tours, sur les traces de quelques-uns des lieux du tournage de la série américaine à succès. Nous sommes ici au cœur du parc national de Þingvellir, là où le plus vieux parlement du monde a été créé en 930. L'immense faille de Lagmannagaur déchire le paysage islandais à perte de vue. Le cadre spectaculaire et donc chargé d'histoire est aussi le théâtre du combat opposant Brienne de Tarth et le limier dans la saison 4 de Game of Thrones. Eddie Marx a fait un aller-retour express d'une journée. Le Californien est déjà allé dans les pas du tournage à Dubrovnik, en Croatie et à Malte.
Je trouve ça bien de venir voir la différence entre les images de la série à la télé et de voir de ses propres yeux. C'est une expérience différente.
Comme lui, ils sont une grosse vingtaine à braver la pluie drue qui s'abat sur le parcours pour découvrir une partie des lieux de tournage de la série en Islande. Glenn McGregor, un fan canadien fraîchement retraité, suite de Liverpool sur les épaules, et de cela.
Certains endroits étaient identiques, d'autres pas tout à fait. Ce qui est certain, c'est que le temps semblait bien différent pendant les scènes à la télé.
Theodor Hansson est le guide du tour. Ce viking de 35 ans, aux cheveux longs et à la barbe fournie, a aussi joué plusieurs rôles de figurant dans les séries 2, 3, 4 et 7 qui sera bientôt diffusée. Il confirme que la météo capricieuse a tourmenté les équipes de tournage.
En hiver, c'est vraiment très très difficile parce que vous avez de la neige un jour, ensuite il pleut de tous les côtés, le troisième jour il y a du soleil, puis la tempête. Donc garder une cohérence narrative, couper et monter tout ça ensemble n'est pas évident. Et même en été, donc plusieurs jours de tournage ont été perdus à cause de ça, c'est vraiment compliqué.
En tout cas, avec une telle richesse de phénomènes météo, pas besoin d'effets spéciaux.
Vingt ans après la fin de la guerre, difficile de regarder en arrière en Bosnie les atrocités commises. Ainsi, le siège de Sarajevo ou encore le génocide de Srebrenica sont des sujets tabous dans l'entité serbe de Bosnie. Le gouvernement de cette entité veut d'ailleurs interdire tous les manuels d'histoire qui persisteraient à vouloir y rajouter désormais des passages sur cette guerre. Merci Anesic.
Peut-on désormais enseigner le siège de Sarajevo ou le génocide de Srebrenica en Bosnie? Milorad Dodik, le président de l'entité serbe, l'une des deux entités du pays, a tranché. Il est impossible, dit-il exactement, d'utiliser des manuels scolaires en provenance de la fédération qui explique que les Serbes ont commis un génocide et ont assiégé Sarajevo. Ce n'est pas vrai. Un négationnisme qui n'a rien d'étonnant. La Serbie et l'entité serbe de Bosnie ont du mal à se confronter avec leur passé. Ni Belgrade, ni Banja Luka ne reconnaissent le génocide de Srebrenica. 8000 hommes et garçons bosniaques ont été massacrés en juillet 1995 dans cette petite ville de l'est du pays, alors que 10 000 Sarajeviens ont été tués durant le siège de la capitale bosnienne entre 1992 et 1995. Même si cela ne fait aucun doute dans le reste du monde, les élèves bosno-serbes scolarisés dans cette partie de la Bosnie n'ont aucune chance d'en entendre parler dans leur classe. Alors d'où vient cette polémique ? Tout simplement, les enfants bosniaques de l'entité serbe suivent le programme scolaire de la fédération, l'autre entité du pays donc. Ils ne fréquentent pas les mêmes classes que les petits bosno-serbes, ils étudient dans des manuels scolaires différents, édités par Sarajevo. Or, Sarajevo veut désormais faire figurer la période de la guerre dans les livres d'histoire. Ce sont ces manuels que le président de l'entité serbe entend faire interdire. La mission de l'OSCE en Bosnie, quant à elle, déconseille même courageusement aux Bosniens d'aborder ce sujet de la guerre dans les manuels scolaires.
C'est la fin d'Accent d'Europe. À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur rfi.fr ou sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants le journal.